France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 30 ans, jour pour jour, après la répression du printemps de Pékin, l'intervention sanglante de l'armée chinoise contre les milliers d'étudiants rassemblés sur la place Tiananmen pour réclamer le droit de manifester reste un sujet tabou en Chine et pour s'en assurer, des mesures de sécurité draconiennes ont été mises en place aujourd'hui.
Au deuxième jour de son voyage dans la capitale londonienne, le président américain Donald Trump a dit espérer que son pays nouera un accord commercial très substantiel avec le Royaume-Uni après sa sortie de l'Union européenne.
Au Soudan, au lendemain de l'assaut meurtrier lancé contre les manifestants, le Conseil militaire de transition au pouvoir a annoncé ce matin l'annulation de tous les accords conclus avec l'opposition et appelé dans le même temps à organiser des élections anticipées.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, Radio France, sous la menace d'un plan d'économie et de réduction d'effectifs.
Oui, hier, la présidente du groupe, Sybille Veil, a présenté un plan prévoyant 60 millions d'économies d'ici 2022. C'est trois fois plus que ce que le demandait le ministère de la Culture. Enfin, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale prévoyant notamment la réduction du temps de parole des députés sera soumise au vote cet après-midi. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous, on va prendre la route d'un nouveau féminisme, un autre féminisme pour toutes et pour tous. C'est ce que défend aujourd'hui la philosophe américaine Nancy Fraser, notre invitée, dans un essai manifeste « Féminisme pour les 99% ».
Merci, à tout à l'heure. S'il fallait encore se convaincre qu'en Chine, liberté économique et liberté politique n'ont pas pris tout à fait le même virage, on se contentera d'observer comment 30 ans, jour pour jour, après le massacre de la place Tiananmen, les autorités avancent aujourd'hui sans scrupule aucun le succès économique impressionnant du pays comme une justification a posteriori de la répression dans le sang du mouvement étudiant. Quand dimanche dernier, le ministre chinois de la Défense estimait que les mesures prises par le gouvernement central pour mettre fin à ces troubles étaient correctes et avaient permis d'assurer la stabilité le développement de la Chine. Hier encore, le quotidien anglophone Global Times, proche du pouvoir, jugeait lui que la répression avait permis de vacciner la société contre toute agitation politique. Pour le reste, évidemment, le gouvernement a choisi de faire le moins d'allusions possible à ces événements tragiques et impose même une véritable chape de silence, sans compter que pour dissuader notamment les plus curieux de se rapprocher de la place Tiananmen, les autorités disposent désormais d'un moyen infaillible, un gigantesque parc de caméras de surveillance. Depuis que la Chine a lancé son opération Sharp Eyes, regard perçant, c'était en 2012, 176 millions de ces caméras ont déjà été installées dans le pays, ou comment la high-tech a réussi à tuer toute velléité de contestation en Chine. C'est un reportage à Pékin signé de notre correspondant Dominique André.
Plus besoin de chars ni de soldats. Sur l'immense avenue Shangan qui mène à la place Tiananmen, des centaines de caméras sont braquées sur la foule. Impossible de sortir une banderole. La sécurité publique sait qui se trouve sur la place, en particulier dans les moments sensibles. La Chine est sous le contrôle des hautes technologies, dénonce l'avocat Teng Biao, l'une des figures des défenseurs des droits de l'homme qui a dû fuir Pékin.
Ce qui est spécial et doit nous alarmer, c'est que le gouvernement chinois utilise la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale pour localiser et identifier les personnes, en particulier celles qu'il considère comme des fauteurs de troubles. Il y a aussi les big data, les banques de données, la grande muraille électronique qui censure Internet, l'intelligence artificielle et la haute technologie qui sont utilisées par le gouvernement pour contrôler la société. Ce totalitarisme high-tech est sans précédent.
Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux chinois, des hommages sont rendus aux victimes de manière habile pour contourner la censure, avec des chansons des années 80 et 90 et ce message d'une inconnue qui publie 6 fois le chiffre 4 pour 4 juin.
Alors si le modèle du régime de Pékin demeure encore aujourd'hui assez largement celui d'une dictature, c'est vrai que l'empire du milieu a atteint en revanche un niveau de développement économique impressionnant et les États-Unis d'ailleurs ne s'y sont pas trompés, eux qui il y a un an se sont lancés dans une guerre commerciale avec la Chine, avec le risque toutefois que celle-ci ne se retourne contre eux et conduise à une récession, c'est du moins ce que laissent désormais entendre certaines des plus grosses banques d'investissement, de même qu'un sondage publié hier mené auprès de 53 économistes de grandes universités et entreprises américaines, 60 60% d'entre eux jugent que l'économie américaine pourrait entrer en récession avant la fin 2020. Pas de quoi toutefois décourager Donald Trump d'ouvrir un nouveau front avec un autre géant asiatique. Dès demain, les exportations indiennes aux États-Unis ne bénéficieront plus du régime préférentiel qui était en place depuis 10 ans. Une mesure en forme d'avertissement à la fois par rapport aux relations que New Delhi entretient avec Téhéran, mais aussi contre la forte présence en Inde du géant chinois des télécoms Huawei. Enfin, preuve toujours et encore que pour Donald Trump, décidément, seul compte le rapport de force. Après avoir insulté hier le maire de Londres avant de faire l'éloge de la reine Elizabeth, le président américain retrouvera aujourd'hui Theresa May, non sans avoir pris soin auparavant de descendre en flamme sa gestion du Brexit. Et ce n'est certainement pas l'énorme ballon caricaturant le milliardaire en bébé joufflu et colérique dans le ciel londonien qui devrait le dissuader d'envenimer un peu plus encore les relations entre les deux alliés, d'autant que les sujets de division ne manquent pas, qu'il s'agisse là aussi de la question iranienne ou de la stratégie adoptée vis-à-vis de Huawei, sans oublier la relation commerciale entre les deux pays. Antoine Gignot, bonjour. Vous êtes en direct de Londres, du moins on l'espère. Alors l'ambassadeur américain au Royaume-Uni a d'ores et déjà affirmé que Washington préparait un accord en ce sens. De son côté, Theresa May veut elle aussi encourager une coopération économique plus large et pour cause, dès lors que le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 31 octobre au plus tard, eh bien cette relation sera évidemment cruciale pour le Royaume-Uni post-Brexit, mais les choses, Antoine, ne seront évidemment pas si simples.
Et oui, Theresa May parle d'opportunités énormes, mais elle ne donne pas vraiment de détails ce matin. Nous avons avec les États-Unis, dit-elle, un partenariat formidable, mais nous pouvons le renforcer, et elle plaide pour un nouvel accord de libre-échange avec une coopération économique plus large pour, dit-elle, façonner et influencer l'économie mondiale, ses règles et ses institutions. Nous allons y arriver, renchérit Donald Trump. Le président américain évoque la perspective d'un accord très très substantiel, ce sont ses mots. En termes de chiffres, les échanges entre le Royaume-Uni et les États-Unis ont dépassé l'an dernier les 200 milliards d'euros. Ils ont augmenté de 70% au cours de la dernière décennie. Reste à savoir jusqu'où les Britanniques sont prêts à aller dans l'ouverture de leur marché aux produits et aux normes américaines. Le Royaume-Uni, explique le Financial Times, pourrait, dans l'idée de Donald Trump, servir de tête de pont pour faire entrer des marchandises sur le secteur européen et permettre aussi aux Américains d'investir dans les services publics britanniques. Après les propos dimanche de l'ambassadeur des États-Unis qui suggérait de privatiser en partie le système de santé, plusieurs ministres ont été contraints de faire des déclarations publiques pour préciser les hôpitaux et les médecins ne sont pas à vendre.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Et que dire à présent de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne? Ce matin, Angela Merkel a jugé qu'un accord commercial avec les États-Unis était d'une importance cruciale avant de regretter que la France s'y oppose. Le mois dernier, les États membres de l'UE ont en effet donné leur accord définitif à l'ouverture de négociations commerciales avec l'administration américaine. Et ce, en dépit de l'avis défavorable de la France, laquelle dénonce tout à la fois le chantage exercé selon elle par Donald Trump, de même que son retrait de l'accord de Paris sur le climat. La scène a fait le tour des réseaux sociaux sur les quais d'un port situé au nord-ouest de Manille. On y voit des conteneurs ouverts révélant des tonnes de déchets plastiques entassés ainsi depuis 6 ans dans le noir et faussement étiquetés déchets recyclables. Et bien vendredi dernier, le gouvernement philippin a décidé tout simplement de coller à tous ces détritus une nouvelle étiquette retour à l'envoyeur. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Alors on se souvient que la semaine dernière, la Malaisie avait, elle, déjà décidé de renvoyer 3000 tonnes de déchets plastiques dans leur pays d'origine. Et cette fois-ci, c'est donc au tour des Philippines de demander, en l'occurrence au Canada, de rapatrier ces ordures.
Oui, ce sont 69 conteneurs de déchets qui sont retournés donc au Canada. Ces déchets exportés par une entreprise canadienne en 2013 et 2014 étaient étiquetés, vous l'avez dit, plastique à recycler, tromperie totale sur la marchandise, puisqu'en réalité, les conteneurs étaient remplis d'ordures ménagères, de bouteilles, de déchets électroniques, de sacs en plastique et même de couches culottes souillées. Une petite cinquantaine de conteneurs ont tout de même été traités avant que le gouvernement philippin ne se fâche tout rouge jusqu'à rapatrier même son ambassadeur en poste à Ottawa. L'affaire des déchets empoisonnait depuis des années les relations diplomatiques entre Manille et Ottawa. Le mois dernier, Manille a été à deux doigts de mettre sa menace à exécution, jeter les conteneurs par-dessus bord dans les eaux territoriales du Canada. Les ordures, en tout cas, arriveront sur le sol canadien fin juin.
Et puis Véronique, on l'évoquait, il n'y a donc plus que les Philippines aujourd'hui qui ne veulent plus être la poubelle du monde.
Non, les Philippines ne sont pas le seul pays concerné par ce phénomène des ordures importées de pays occidentaux. Depuis que la Chine l'an passé a décidé de ne plus importer de déchets en plastique pour les recycler, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont pris le relais pour traiter des cargaisons mais qui sont souvent illégales. Ce business de l'ordure avait donc séduit aussi la Malaisie qui a vite croulé sur les déchets du monde entier, équipements ménagers américains, canadiens, japonais, saoudiens, cartons de lait contaminés australiens, cédés du Bangladesh et même déchets français que la Chine avait récupérés dans un premier temps avant de les renvoyer en Malaisie. La Malaisie donc récemment a dit stop à tout ce trafic, confronté à une prolifération d'usines de retraitement illégal peu soucieuses, on s'en doute, de l'environnement. Moralité de l'histoire, eh bien, si les pays occidentaux riches traitaient leurs propres déchets, surtout en produisaient moins, eh bien, ça serait pas plus mal.
Merci Véronique Robérotte. La contre-révolution serait-elle en marche au Soudan un peu moins de 2 mois après la chute du dictateur Omar el-Béchir? Hier, les militaires au pouvoir ont dispersé dans le sang le sit-in qui se tenait depuis des semaines devant leur QG à Khartoum pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Plus de 35 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. En réaction, le mouvement de contestation a appelé la population à se rendre dans les rues aujourd'hui pour manifester pacifiquement. De son côté, le conseil militaire de transition au pouvoir a annoncé ce matin l'annulation de tous les accords conclus avec l'opposition et qu'il convoquerait par ailleurs des élections anticipées dans un délai de 9 mois. Omar Ouaman a joint par téléphone Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, et pour lui, vous allez l'entendre, c'est ni plus ni moins qu'un retour à la case départ.
En quelque sorte, on est revenu effectivement à la case départ avec l'armée qui se maintient au pouvoir, mais l'armée elle-même est divisée sans doute avec ses forces supplétives qui ont joué un rôle très important dans la répression et qui vont peut-être continuer, hein, mais certainement tous les acquis de la rue ont été effacés par le général al-Burhan. Et tout ça est lié à l'intervention de l'Arabie saoudite et des Émirats auxquels il a rendu visite récemment et qui ont dû décider de mettre un terme à cette expérience démocratique qui commençait à être un petit peu dérangeante pour les pays voisins parce qu'elle risquait d'entraîner une contagion.
Les putschistes ont changé les règles du jeu, ce sont eux aujourd'hui les seuls maîtres à bord.
En effet, je crois que l'armée a décidé de reprendre en main tout le pays, et donc elle prend le risque d'avoir à s'affronter aux manifestants, que ce soit à Khartoum, que ce soit dans les villes de province. Maintenant, on est dans une situation différente qui est qu'il y a effectivement un pouvoir à Khartoum, mais ce pouvoir n'a pas d'outils dans les mains. Il n'a pas d'argent non plus, le pays n'est pas un pays qui exporte des matières premières précieuses comme du pétrole, donc il dépend des pays du Golfe. Or, les pays du Golfe vont donner de l'argent, ils ont déjà décidé de donner, et ils vont continuer, ce qui va, dans l'esprit du pouvoir, calmer les choses, c'est-à-dire remplir les épiceries, les magasins, remettre le monde au travail. Mais le Soudan y a perdu d'une certaine manière son indépendance.
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, il répondait à Omar Ouaman. C'est peu de dire que les vues maîtres de toutes les consoles de Radio France ont fortement tapé dans le rouge hier, après que la présidente du groupe, Sybille Veil, a annoncé un plan d'économie de 60 millions d'euros d'ici 2022. Non seulement parce que c'est 3 fois plus que ce que lui réclamait le ministère de la Culture, mais aussi parce que l'entreprise aux audiences excellentes est aujourd'hui bénéficiaire. Alors le premier budget à pâtir de cette réforme sera la masse salariale qu'il faudra amputer en l'occurrence de 25 millions d'euros. Et du coup, eh bien, à peine le chiffre a-t-il été évoqué que la perspective d'un plan de départ qui n'a pas été formellement évoqué est déjà dans les esprits. Cécile de Kervasdoué, bonjour.
Bonjour.
Pour l'heure, la présidente n'a confirmé donc aucune réduction d'effectifs. Dans un premier temps, c'est l'organisation qui doit être revue, comprenez le temps de travail, avec en perspective notamment une révision du nombre de jours de congé.
Oui, c'est ce que les syndicats appellent le chantage de la direction. Pour pouvoir financer la baisse de 20 millions d'euros de la dotation d'État, trouver seul de quoi financer les développements numériques, Radio France veut donc couper dans le coût salarial qui représente, je vous le rappelle, 61% du budget de Radio France, puisque nous faisons tout en interne. Donc Sybille Veil doit, le dit au syndicat, soit vous acceptez des suppressions de postes, soit vous revenez sur votre temps de travail et vos congés. Car selon les cours des comptes, ils seraient trop nombreux ces congés. 14 semaines par an pour les journalistes. Mais c'est faux, s'insurge Valeria Emmanuelle du Syndicat national des journalistes.
Ah oui, 14 semaines, c'est merci la Cour des comptes qui a inventé le chiffre. En fait, une partie, c'est les congés normaux. Une partie, c'est juste la récupération des jours fériés et une partie, ce sont des RTT. Et c'est, évidemment, ça ne fait pas 14 semaines. C'est-à-dire que, par exemple, quand je travaille samedi et dimanche, je vais bien m'arrêter lundi et mardi. C'est fictivement des congés, ce sont des récupérations. Si vous comptez, on n'a pas plus de jours de congés que les autres. Simplement, on a ces récupérations-là qui nous mettent à quelques jours de congés près au niveau des cadres de cette maison qui ne se posent pas la question quand ils sont tranquillement chez eux le lundi de Pâques, le jour de Noël ou le 1er janvier.
Surtout les syndicats ne comprennent pas pourquoi la direction de Radio France leur demande de moderniser l'entreprise. L'entreprise qui est déjà leader, par exemple, sur la production numérique et pas seulement, explique Jean-Claude Quenson, représentant Sud des salariés.
Ce plan, c'est la volonté d'économie du gouvernement, avec la grande complaisance de la direction actuelle de Radio France, qui pense que c'est une opportunité bienvenue pour réformer cette maison, pour la moderniser. Or, qu'est-ce qu'il faut moderniser? Alors même que nos modes de production ont évolué, or même que nous avons rencontré le public, nous avons des audiences records aujourd'hui, et on prend prétexte de ce plan pour nous mettre dans un chantage terrible. Si nous ne faisons pas, entre guillemets, les concessions demandées, nous sommes menacés, purement et simplement, de la suppression d'activités. Alors on parle d'orchestre, on parle de France Musique.
À cela s'ajoute le vœu de la direction de monter des partenariats plus fréquents entre Radio France et des entreprises privées. Les syndicats prévoient de tenir une assemblée générale avec les salariés ce jeudi.
Merci Cécile de Carvaz-Douai. Un an après l'adoption du nouveau pacte ferroviaire, les syndicats de la SNCF appellent à une journée d'action et de grève aujourd'hui pour en dénoncer les conséquences. Les cheminots tirent en particulier le signal d'alarme sur des conditions de travail fortement dégradées, une hausse des risques psychosociaux et un climat social de plus en plus lourd. Rappelons que la réforme prévoit que dans un peu plus de 6 mois, les établissements publics constituant la SNCF soient transformés en sociétés anonymes, le tout sur fond de concurrence ferroviaire en préparation. Où sont passés la colère sociale et l'esprit critique qui s'aiguise depuis des mois dans notre pays? À cette question, un millier de signataires ont décidé d'apporter une réponse, publiée aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde. Cette tribune intitulée « Pour un Big Bang de la gauche, entend construire une espérance autour d'exigences à la fois sociales et écologiques ». Alors parmi les signataires de cette tribune, et même à l'origine, on trouve notamment la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, laquelle semble acter au fond l'échec de son parti à l'issue des dernières élections européennes et entend refonder en quelque sorte le front de gauche, mais élargi cette fois-ci au mouvement le plus en vue actuellement, les écologistes. Les précisions de Stéphane Robert.
Au lendemain des élections européennes, la députée Clémentine Autain avait déjà pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, dénonçant sur France Inter un problème de ligne politique.
C'est évidemment un problème de ligne. Nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine. Ça, c'est pour le profil politique. Et par ailleurs, sans doute, avons-nous pris trop de distance avec un discours cohérent de gauche.
Aujourd'hui, elle fait un pas supplémentaire avec cette tribune publiée dans le journal Le Monde, co-signée entre autres par la députée communiste Elsa Fossillon. Elle y fait le constat que la gauche est en miettes, qu'elle a été abandonnée par les classes populaires. Et la raison essentielle du désastre est, selon elle, qu'il n'y aurait pas de perspective émancipatrice qui permettrait de fédérer les colères sociales qui continuent de s'exprimer. Elle se propose donc de reprendre le combat perdu de la France insoumise sur une ligne clairement à gauche, en rupture, dit-elle, avec le productivisme et le consumérisme. Et elle enfourche par là même la cause écologiste, parce que c'est le consumérisme et le productivisme, dit-elle, qui nous mènent au chaos climatique. Clémentine Autain, dans cet appel à fédérer les forces de la gauche radicale et l'écologie politique, a reçu le soutien du maire de Grenoble, Éric Piolle, seul maire écologiste d'une grande ville en France. En revanche, elle a froissé Jean-Luc Mélenchon, qui sur son blog a écrit qu'il n'attendait pas d'élégance dans la vie politique. Au-delà des querelles de personnes, on peut s'interroger sur cette démarche initiée par la députée de Seine-Saint-Denis, puisque c'est précisément en changeant de ligne et en essayant d'être le parti fédérateur des forces de gauche que la France insoumise est passée d'un score de 20% à la présidentielle en 2017 à 6% aux européennes.
Le nouveau règlement de l'Assemblée nationale doit être voté aujourd'hui. Ce règlement qui prévoit notamment une limitation du temps de parole est aujourd'hui rejeté par l'opposition de droite comme de gauche qui espère que le Conseil constitutionnel censurera in fine ce texte. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour, bonjour Rosalie.
Bonjour.
Première question, Monsieur Chenu. Aujourd'hui, Gérard Larcher doit réunir des élus de la droite et du centre pour sauver ce qui peut l'être après la débâcle de son parti, les Républicains, aux européennes. Est-ce qu'aujourd'hui vous remerciez Emmanuel Macron d'avoir fait exploser le paysage politique tel qu'il prévalait jusqu'à présent pour le réduire finalement à un duel entre les progressistes d'un côté, lui, et les nationalistes de l'autre, vous?
Vous savez, ça fait longtemps que Marine Le Pen avait fait l'analyse que la gauche, telle qu'elle était représentée dans le pays, autour du Parti Socialiste, Parti de Gouvernement, et puis la droite, UMP, elle n'était plus des vecteurs qui avaient encore de la pertinence. Ça fait longtemps que nous, on a dit, on n'est pas un parti de droite ou de gauche, on est un parti qui va au-delà de ça. Et je crois qu'Emmanuel Macron nous a suivis dans cette analyse ensuite. Quand il a créé En Marche, il a créé avec des gens venus de la droite et de la gauche. Nous, Rassemblement National, et vous avez devant vous un député que je suis, qui est député d'une circonscription populaire du Nord, qui a été historiquement communiste. Donc nous avons des électeurs qui viennent de la droite et de la gauche. Donc je pense que ces deux clivages représentés par des partis politiques du gouvernement en échec total, qui ont trahi, qui ont menti, qui ont été en échec, qui ont vu leurs électeurs se détourner d'eux, eh bien, amènent les Français à redistribuer les cartes, à réorienter le paysage politique français. Ce sont les Français, en été, qui obligent les partis politiques aujourd'hui à se réorganiser. Ils le font avec deux clivages. Vous dites les nationalistes, moi je dirais les partisans, évidemment, de la défense de la nation, de son identité, mais aussi du modèle social français, de ce qui fait notre originalité, et puis les partisans de l'autre côté d'Emmanuel Macron, qui est devenu une sorte de patron lui-même des Républicains, c'est-à-dire ultra-libéraux, pro-européens, ouverts à toutes les privatisations. Voilà, il y a deux clivages aujourd'hui qui existent.
Et vous qui êtes passé par l'UMP, oui. Sébastien Chenu, vous dites quoi au LR? Ne vous embêtez pas à reconstruire quelque chose, venez chez nous.
Mais moi je leur dis, vous ne pouvez pas, quand on regarde la carte électorale du dimanche des Européennes, on voit, là où Emmanuel Macron a performé, c'est à Neuilly-sur-Seine, à Boulogne-Billancourt, à Versailles, là où il y avait historiquement la droite. Mais en fait, c'est pas la droite, c'est le fric. C'est un bloc élitaire face à un bloc populaire. Donc moi, je dis aux gens qu'ils viennent de la droite ou de gauche de nous rejoindre, parce que il y avait 60% des électeurs de Mélenchon qui, dans une enquête récemment, disaient qu'ils étaient en capacité de pouvoir voter demain pour le Rassemblement national.
Mais est-ce que vous pensez que là, les digues vont céder? Marion Maréchal appelle à un grand rassemblement. Marine Le Pen tend la main à la droite. Est-ce que les digues peuvent céder aujourd'hui?
Nous, on tend la main à tout le monde, mais je crois qu'il faut dépasser. Moi, je crois pas à l'union des droites. Je crois que c'est pas pertinent, ça n'existe plus. Il faut dépasser ça. L'union des droites, c'est trop restrictif. Pourquoi ne parler qu'à des gens de droite? Moi, je vous le dis, je suis élu par des gens qui, toute leur vie, ont voté à gauche et je pense avoir une conscience sociale beaucoup plus aiguisée que les Républicains. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, il faut dépasser tout ça pour reconstruire, évidemment, aujourd'hui, une force politique qui soit une alternative crédible à Emmanuel Macron. Donc, je dis évidemment aux électeurs des Républicains de nous rejoindre, comme je dis aux électeurs de la France Insoumise, s'ils pensent, s'ils partagent des valeurs qui sont celles que nous, dont nous faisons la promotion, c'est-à-dire la défense de la souveraineté de notre pays, de sa liberté, de son identité, de son modèle social, comme je vous le disais.
Mais vous êtes arrivé en tête des Européennes. Cette victoire, pour vous, est-ce qu'elle en annonce d'autres? Parce qu'en 2014, vous étiez déjà en tête des Européennes.
Oui, et il ne vous a pas échappé qu'après les élections européennes de 2014, eh bien, nous sommes arrivés au second tour de l'élection présidentielle. Et c'était déjà, là aussi, une façon de redessiner le paysage politique. Les Français avaient choisi Marine Le Pen pour s'opposer à Emmanuel Macron. Donc, effectivement, je pense que cette victoire en annonce d'autres, et notamment les prochaines présidentielles. Je pense qu'après avoir eu ce président déconstructeur, qui aura tout bougé, tout chamboulé, tout abîmé, sans beaucoup de résultats, il faut bien le dire, eh bien les Français aspireront à quelque chose de solide, de cohérent, et je pense que Marine Le Pen est capable de représenter cette candidature de solidité et de cohérence.
On en est où du super groupe promis par Marine Le Pen au niveau européen?
Alors ça avance pas mal, puisque on est à peu près, au moment où je vous parle, à 77 eurodéputés venus, je crois, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, bien sûr, d'Autriche, et on en avait une cinquantaine de sortants. Mais les négociations sont toujours en cours. Il y a des parlementaires venus, je crois, de Pologne ou de Grande-Bretagne, qui aujourd'hui n'ont pas encore fait leur choix, donc les discussions sont en cours.
Mais est-ce que votre projet au niveau européen est suffisamment clair pour vos probables alliés?
Oui, je crois. Le problème, c'est celui des députés britanniques qui aujourd'hui n'ont pas fait le choix, parce qu'ils ont d'autres contingences, notamment le Brexit, de savoir avec qui ils allaient siéger. Mais je pense que nous sommes passés de la 8e place de mémoire d'un groupe qui était le 8e numériquement à la 3e place. Donc même M. Juncker l'a dit, il a dit ils vont, en parlant de nous, ils vont peser beaucoup dans le futur Parlement européen. C'est exactement ce à quoi nous nous employons.
Un mot quand même, Sébastien Chenu, avant de terminer. Thomas Cluzel évoquait la réforme du règlement de l'Assemblée nationale. Quand vous vous êtes penché là-dessus la semaine dernière, ça a viré au psychodrame. Est-ce que vous vous sentez vraiment muselé par cette réforme?
On voit qu'il y a un côté revanchard chez La République En Marche, à travers elle, chez le président Ferrand, qui est celui de verrouiller, de bâillonner les oppositions. Ah, on est loin de la bienveillance de la campagne, hein, où il fallait être sympathique avec tout le monde.
Mais il y a des dispositions qui vous sont favorables.
Alors il y a quelques petites dispositions qui nous permettent d'avoir, vous savez, quelques... Nous, on est 100 groupes, hein, les députés non inscrits, d'avoir quelques questions au gouvernement supplémentaires, mais elles sont contrebalancées par l'incapacité de pouvoir s'exprimer sur les textes, les discussions générales des textes. Or, c'est là qu'on fait valoir des propositions bien plus facilement.
Merci Sébastien Chenu, député, je le rappelle, Rassemblement National du Nord, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Rosalie Lafarge. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera perturbé, chargé d'averses orageuses. Seules les régions se situant du sud-est à l'Alsace-Lorraine resteront à l'écart de ce temps agité. Les températures en hausse, elles varieront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.